Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Il est maintenant 10h et re-bienvenue à l'émission Le 9. Et c'est maintenant le temps de la chronique à Madden. Salut, ça va bien?
Salut, ça va très bien, toi?
Ben oui, merci. Aujourd'hui, tu viens nous parler des élections chiliennes de dimanche dernier.
C'est bien ça, oui.
Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier au Chili? Alors, c'est quoi les résultats?
Donc, dimanche dernier, il y a eu les élections générales au Chili qui visaient au choix d'un nouveau président, mais en même temps au remplacement des chambres législatives, donc de l'Assemblée nationale et d'une partie du Sénat. Comme deux, voire trois élections simultanées. Aux élections présidentielles, la candidate de gauche, Jeannette Jara, est en tête du premier tour à 27% et se retrouve contre le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast. Au niveau de la Chambre des députés, la droite est en tête, par contre, 76 sièges contre 64 pour la gauche sur 155. Et pour le Sénat, la droite a 25 sièges et la gauche 23 sur une cinquantaine. Donc, la droite est en tête au niveau des élections législatives au Chili. De son côté, la gauche est provisoirement en tête au niveau présidentiel. Cependant, c'est une tendance qui pourrait ne pas se maintenir compte tenu du report de potentiel de voix des autres candidats de droite. Il faut aussi noter le taux de participation sans précédent, 85%, compte tenu d'une loi du gouvernement sortant qui obligeait tout citoyen à voter, donc obligation au vote. Donc, pour décrire un peu les candidats vite fait, la candidate du gouvernement sortant, Jeannette Jara, qui est une militante communiste et ancienne ministre du Travail du gouvernement sortant, la coalition de gauche du président Gabriel Boric entre 2021 et 2025. Son programme consiste grosso modo à mettre en place des nouveaux programmes sociaux, dont la continuité de la présidence sortante. Mais en parallèle, il prévoit un renforcement de la sécurité et un contrôle aux frontières, ce qui est des mesures qui paraissent un peu plus à droite, compte tenu de la popularité de ces enjeux dans l'électorat chilien et du succès des autres candidats de la droite, ce qu'on va voir un petit peu après. Et son principal opposant, et face à qui elle se retrouve au deuxième tour, c'est José Antonio Kast, issu du Parti Républicain, un parti classé à l'extrême droite. Pour présenter brièvement, c'est la troisième candidature de Kast à l'élection présidentielle. Il porte un programme très à droite, notamment sur l'immigration, la sécurité, sur les enjeux sociétaux comme l'avortement et aussi sur l'économie. Il prévoit une économie très libérale. Pour autant, il a quand même mis de l'eau dans son vin dernièrement pour ne pas effrayer l'électorat. Il a notamment promis de ne pas toucher aux aides sociales existantes. Parmi les candidats qui ont été éliminés au premier tour, c'est la plupart des candidats de droite, en fait, comme par exemple celui qui a fait la surprise, Johannes Kaiser, qui est considéré comme une surprise. Il a accumulé 14% du vote. Il s'affirme comme libertarien dans la tradition de Milei en Argentine et sécuritaire dans la tradition de Nayib Bukele au Salvador. Aussi, on peut compter la présence de deux candidats de centre-droit avec des scores plus modestes, mais avec un discours tout aussi musclé sur l'immigration et la sécurité. Donc, avec un report éventuel des voix de tous ces candidats, Kast au second tour pourrait gagner à 70%, donc très largement face à son opposante de gauche. Donc, pour le moment, une éventuelle victoire de la communiste Jara, ça semble un peu contre-intuitive.
OK. Et puis, tu me dis quelle élection tente à surprendre par la possibilité d'un candidat d'extrême droite qui arrive au pouvoir. Est-ce que c'est la première fois au Chili?
Bonne question. En fait, le Chili connaît une histoire un peu particulière par rapport à ça. Parce que l'élection, c'est pas sans rappeler certains aspects très sensibles de son histoire. Pour la première fois depuis la gouvernance de Pinochet, l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir au Chili. Donc voilà, pour un petit rappel historique, le général Augusto Pinochet a dirigé le pays d'une main de fer entre 1973 et 90. Il est arrivé à l'issue d'un coup d'État fomenté en 1973 par l'armée et contre le président socialiste Salvador Allende. L'armée était opposée à ses politiques économiques. Et Pinochet a mis en place une véritable dictature avec l'arrestation, voire l'exécution de milliers d'opposants, notamment de gauche. Un pouvoir très conservateur sur de nombreux enjeux, mais particulièrement sur l'économie. Parce qu'il faut savoir, Pinochet s'était distingué par la mise en place d'une politique très libérale à contre-courant du keynésianisme interventionniste qui était un peu à la vogue en l'époque.
Okay.
Là-dessus, il s'était pas mal inspiré de de penseurs qui commençaient à gagner en popularité, comme Hayek ou Friedman, et ce, avant la mise en place du néolibéralisme, particulièrement initié par Thatcher ou Reagan par la suite.
Ouais.
Finalement, il a été dissous en 90 par le biais d'un référendum qu'il avait lui-même initié, ce qui enclenche de fait un retour à la démocratie. Ainsi, si on parle autant de Pinochet aujourd'hui, c'est du fait de l'affiliation de Castres, qui lui-même se réclame de la politique économique, sociétale et sécuritaire de Pinochet, en condamnant toutefois les atteintes aux droits de l'homme.
Okay.
Et également, l'affiliation de Castres est souvent évoquée, parce que Castres lui-même est le fils d'un nazi émigré au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, Castres affirme toutefois condamner ce passé, mm-hmm. prendre ses distances, parce que, bon, évidemment, c'est... Évidemment, ça passe pas trop si on se réclame de tout ce genre de truc. Entre-temps, la destitution de Pinochet, donc plusieurs gouvernements se sont démocratiquement succédés. Et le dernier en date, c'est le de gouvernement sortant, celui de Gabriel Boric, issu de l'Union de la gauche, comme j'ai dit, entre 2021 et 2025. Donc en 2021, il s'opposait déjà à Castres, à l'époque, au second tour. Et Castres, lui, était donné en tête dans les intentions de vote, déjà. Mais pour autant, l'Union de la gauche a gagné la surprise générale. Donc cette union incluait notamment des communistes et des gens un peu plus extrêmes, mais dans l'ensemble, cette union était considérée comme modérée, voire de centre-gauche. Parmi les principales politiques, on peut compter notamment un projet de constitution présenté au peuple en 2022 qui visait à défaire l'actuel hérité de l'ère de Pinochet.
Okay.
Ce projet prévoyait notamment la reconnaissance explicite de la protection de l'environnement ou l'attribution de droits spécifiques à des minorités comme les LGBT ou les peuples autochtones. Donc une constitution un peu de gauche qu'on peut considérer que de la gauche actuelle. Mais pour autant, le peuple a considéré ce projet un petit peu trop progressiste. Donc finalement, par référendum, le peuple l'a rejeté à 62%. Mmh. Entre-temps, l'opposition à Boric était d'ailleurs très forte. Bien que le Chili reste un pays des plus sûrs d'Amérique latine, l'insécurité a augmenté sous son mandat par l'augmentation des enlèvements, des nouvelles formes de criminalité organisée, que beaucoup associent aux flux migratoires qui proviennent de la Bolivie ou du Venezuela. Notamment, entre-temps, il y a eu un autre projet de constitution, mais initié par l'opposition et par Castres lui-même, qui entendait, à l'inverse, durcir la constitution actuelle en renforçant la lutte contre l'avortement et l'immigration. Mais à son tour, ce projet a été rejeté à 56% en 2023. Donc cette situation n'est pas sans rappeler la situation générale de l'Amérique latine. Parce que pour beaucoup de pays de cette région-là du globe... Ils ont eux-mêmes connu des dictatures de droite durant la deuxième moitié du XXe siècle. On peut aussi parler d'expériences de gauche récentes, un peu comme Boric, à partir des années 90-2000, comme en Bolivie, au Venezuela, en Équateur, au Brésil, en Argentine. Mais c'est d'expériences qui ont souvent été contestées récemment. Certaines s'étaient elles-mêmes soldées par une expérience un peu plus dictatoriale, contrairement à Boric, qui lui respectait beaucoup plus les institutions démocratiques. Okay. Mais bref, ces expériences ont toutes favorisé l'arrivée au pouvoir de dirigeants de droite, souvent extrêmes, comme Bolsonaro, Bukele, Milei et plein d'autres. Mais ce sont des expériences... plus généralement, on peut rejoindre ça à la montée de l'extrême droite dans le monde aussi, exemple Trump aux États-Unis ou les différents partis en Europe. Donc, en soi, le Chili n'est pas tant une exception.
Finalement, il va se passer quoi au deuxième tour?
Ce que les gens semblent présager, les analystes, les spécialistes et même l'individu lambda, c'est que la droite va gagner. Parce que, comme j'ai dit, avec le report potentiel des voix, ça peut facilement totaliser 70% des voix.
Okay.
Donc ce qui serait prisé, donc, ce serait ce report des voix vers Castres, et puis notamment pour contrer Rara, une manière de faire barrage. Et à l'issue d'une éventuelle élection de Castres, on pourrait imaginer une éventuelle alliance gouvernementale qui ferait une coalition des partis de droite. De son côté, à gauche, Rara ne sent pas sa voix évacuée et elle semble parier sur une marge qui se montre très étroite. Parce que, comme j'ai dit, en fait, elle a un petit peu recentré son discours, voire droitisé, notamment sur l'immigration et la sécurité, parce que c'était une manière un petit peu de recapter une partie de l'électorat qui serait plus tentée par la droite. Et le soir du premier tour, il a notamment fait du pied aux deux candidats du centre-droit qui ont été éliminés. De cette manière, elle espère ainsi obtenir des voix des électeurs plus modérés pour contrer Caste.
Ok.
Après, ce qui risque d'impliquer pour elle de mettre encore plus d'eau dans son vin et de peut-être, qui sait, rebuter une partie de son électorat de gauche encore plus. Donc, c'est un équilibre toujours difficile à tenir. Donc, ainsi, la question qu'on va se poser, est-ce qu'elle va endiguer la montée de la droite par un programme de gauche plus modéré, voire droitisé, ou bien, de cette manière, ne ferait-elle que banaliser un discours de droite particulièrement partagé par la population chilienne? Donc, dans tous les cas, le second tour aura lieu le 14 décembre et l'affaire est à suivre.
Ben, c'est vrai, ça va être à suivre. Puis, ben, merci d'être venu nous en parler.
Merci à toi.
Parce que c'est pas tous les jours qu'on suit les élections en Chili. Fait que, ben, merci. Puis, on se revoit la semaine prochaine à une autre chronique.
Merci. Bonne semaine.
C'était Madden pour sa chronique hebdomadaire. Et pour nous, restez à l'écoute, puisque après la pause, on parle de musique. Restez à l'écoute. Bougez surtout pas.